C'était un 25 décembre, le jour de Noël. La neige avait déjà recouvert les trottoirs de cette métropole américaine de son manteau blanc. Des dizaines de personnes approchaient en titubant, se tenant les unes aux autres, ralenties et effrayées par le gel qui recouvrait à présent la rue principale. Il avait gelé à pierre fendre cette nuit-là. On était descendu jusqu'à moins 24 degrés sous zéro. Mais les gens continuaient d'affluer au risque de se rompre le cou. Pour rien au monde, ils n'auraient raté le culte de Noël. Et puis tout le gratin de la ville serait là. Le maire, le gouverneur de l'État et même peut-être le vice-président si la météo le permettait. En arrivant devant la double porte du temple, nos membres d'église chancelants allaient être les témoins d'un curieux manège. À l'entrée, un des diacres de l'église saluait poliment, comme à son habitude, toutes les personnes se présentant, leur souhaitant un joyeux Noël. Toutes, pas vraiment. Pour chaque personne, couple ou famille qui entrait, il y avait un homme pauvrement vêtu qui tentait de se frayer un passage à l'intérieur. Mais le diacre Cerbère, servile, le repoussait avec toujours plus de fermeté, sans pour autant se départir de son large sourire réservé à sa clientèle habituelle. Le maire arriva et ce fut la ruée et les salam alek. Courbettes aidant, les lumbagos et hernies discales se rappelèrent au bon souvenir de leurs heureux propriétaires. Heureusement pour lui, notre vigile de service ne souffrait d'aucune de ces afflictions. Cela se remarqua fort lorsque la limousine du gouverneur vint s'arrêter devant le porche de l'église. Notre homme bondit d'un seul coup pour souhaiter la bienvenue, à cet homme politique d'importance au travers d'une révérence à faire pâlir d'envie la reine d'Angleterre elle-même. Il embrouilla même le bout de sa cravate, celle-ci étant entrée en contact malencontreux avec le sol neigeux, c'est vous dire si la courbette était belle. L'homme important entrait, le diacre reprit sa place et le manège entre lui et le pauvre homme reprit de plus belle. L'église était à présent pleine des quelques 800 personnes qu'elle pouvait contenir. De toutes celles présentes ce jour-là, seules 4 avaient plaidé la cause du malheureux auprès du portier pointilleux, lui demandant instamment en ce jour de Noël d'accueillir ce malheureux un peu mieux que ne fut accueilli leur Seigneur en ce monde. Rien n'y fit, il avait sans doute des ordres. Le premier cantique entonné, le diacre, content de lui-même, ferma les portes de l'église et rejoignit les autres invités, laissant là dans le froid le malheureux, sans avoir oublié, bien entendu, encore une fois, de lui intimer l'ordre de rester dehors. L'assemblée venait d'entonner le deuxième cantique quand soudain, la grande porte s'ouvrit et le malheureux se mit à remonter l'allée entre les bancs des spectateurs médusés. Car à chaque pas, l'homme abandonnait une partie de ce qui s'avère être un déguisement. D'abord les gants, puis le chapeau, puis la fausse barbe, puis la veste, et enfin, il arriva au bas des marches devant l'estrade. Il les monta, se dirigea vers la chaire, fit d'un geste d'autorité arrêter la musique, et à ce geste, tous reconnurent leur pasteur. Il ne prononça que 3 mots ce jour-là. 4. Seulement 4. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Ne faites pas de favoritisme. Accueillez Jugez chacun impartialement et équitablement en vous basant sur la foi et les fruits des personnes, pas sur leur richesse, leur race ou leur origine sociale. Alors Jacques s'adresse à des églises qu'il nomme sunagogai, synagogue en français, ce qui confirme au passage que nous sommes bien en présence d'un témoignage précoce du christianisme. Et fidèle à ce qu'il a déjà dit, il rappelle à ses frères dans la foi que leur foi ne peut justement pas s'exprimer sous forme de préférence, car la notion même de favoritisme est étrangère à la foi en Christ. Elle ne fait pas. Le favoritisme fait pas, ne peut pas faire partie du contenu objectif et subjectif de la foi chrétienne. Pourquoi ? Parce que Jésus ne faisait pas de favoritisme. Ce même Jésus qui a donné à son Église la norme des rapports que doivent entretenir les membres de sa famille. Et nous allons prendre un texte dans l'évangile de Jean. Ces paroles se situent juste après que Jésus ait lavé les pieds de ses disciples. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu, forcément, encore une fois, que vous le mettiez en pratique. » Alors cette scène reste étonnante, me semble-t-il. Et elle reflète l'humilité de notre Seigneur qui se veut serviteur alors, dit-il, qu'il est véritablement le maître. Jésus lave les pieds de ses disciples, lui qui possède la majesté éternelle. Celui que les anges servent dans le ciel se fait sur terre le serviteur des hommes. Et encore, tout cela n'est que les prémices de l'humiliation suprême par laquelle il devra passer. Il sera bien élevé, mais d'une bien étrange manière, sur une croix, à la vue de tous, nu comme un ver. Lui qui avait confectionné des vêtements au commencement du monde pour couvrir la nudité d'Adam et d'Ève. Leur péché, le nôtre, est couvert par la nudité du Christ. Notre Seigneur s'est humilié sur cette terre pour que nous nous sentions jamais supérieurs aux autres, puisque nous ne pouvons pas nous hisser à sa stature et que même si cela était possible, nous ne pourrions pas agir différemment de lui. Si un jour vous devenez en tout point semblable à Jésus, vous ferez comme lui, forcément. Après cela, après cet exemple qui vient d'en haut, celui de Jésus, aucun chrétien ne peut plus se flatter de sa richesse, de sa naissance, de son rang, puisque celui qui a daigné accomplir ce geste de serviteur, c'est le Seigneur à qui doit revenir toute gloire et toute puissance. La deuxième personne de la Sainte Trinité. Devant Dieu et dans l'Église, il n'y a donc ni pauvre, ni riche, ni noir, ni blanc, ni bleu, pas de schtroumpf, ni jaune, ni juif, ni païen, ni homme, ni femme, ni esclave, ni maître. Il n'y a que des serviteurs appelés à se servir mutuellement et ce faisant à servir leur Seigneur. Alors, vous le savez comme moi, les hiérarchies existent bien entendu encore dans le monde. Le monde est d'ailleurs organisé sur cette base-là, sur cette ségrégation-là. Et notre Seigneur n'est pas dupe de ça. La preuve, c'est qu'il dit à ses disciples qu'ils auront toujours les pauvres avec eux. S'il ose affirmer une chose pareille, c'est parce qu'il sait comment évolueront les choses à ce sujet dans l'avenir. Il y aura encore et toujours des pauvres avec vous. Car en apparence du moins, rien ne va changer après sa mort, sa résurrection et son ascension. Le monde a continué de tourner comme il l'a toujours fait, avec ses discriminations et ses injustices. La seule chose qui va changer, et ça dépend un peu de nous, c'est qu'au travers d'hommes et de femmes habités par le Saint-Esprit, l'évangile du royaume va se répandre, et avec lui, le royaume lui-même, une âme à la fois. Mais le monde, lui, pendant ce temps, ne changera pas. La présence sans discontinuer de la pauvreté en ce monde depuis que Jésus a prononcé cette parole en est la preuve. Rien n'a changé. Et même si les sociétés occidentales réussissent sans doute un peu mieux que d'autres dans leur tentative d'éradiquer les barrières sociales existantes, la pauvreté perdure parce qu'elle est inhérente à ce monde où les forts exploitent les faibles, où les riches le deviennent sur le dos des pauvres. Et rappelons-nous cette phrase terrible, que je m'y retrouve, où est ma phrase terrible ? Je la cite donc de mémoire parce qu'elle a disparu de mes notes. Si ce sont les pauvres qui payent des impôts, c'est parce qu'ils sont plus nombreux. Alors tout cela existe dans le monde, mais ça ne peut pas exister dans l'Église, car dans l'Église ne se trouvent que des serviteurs, que des doulos dans le grec, des esclaves. De qui ? Du Christ. Donc favoriser les riches au détriment des pauvres dans l'Église locale, c'est oublier un peu vite que notre Seigneur, celui-là même qui a lavé les pieds de ses disciples et qui nous invite à faire de même, s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Il s'est rendu pauvre pour nous. C'est ce que Paul dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alors, le problème n'est pas qu'un homme riche entre dans une église. Pour être rare, la chose existe. Non, le problème apparaît lorsque les membres de cette église se plient en quatre pour cet homme parce qu'il est riche, à cause de sa richesse. Il ne s'agit donc pas ici d'ostraciser les riches au bénéfice des pauvres, mais bien de traiter tout le monde de la même manière, avec respect et amour. D'ailleurs, quand on y pense, ce riche est en fait plutôt pauvre aux yeux de Dieu. Il voudrait d'ailleurs mieux pour lui, s'il ne connaît pas Dieu, que l'Église qui l'accueille le fasse avec à l'esprit non pas sa richesse, mais sa pauvreté spirituelle, sa mort spirituelle peut-être. Il est en effet très probable que Jacques fait ici allusion à un riche non-chrétien qui se rendrait à une réunion de l'Église. Alors, le contexte que nous verrons la semaine prochaine semble plaider pour cette approche. Ce qui se faisait assez souvent à l'époque, parmi les Juifs désireux d'en apprendre plus au sujet de cette nouvelle doctrine apparue au sein de leur religion. Si vous lisez la fin du livre des Actes, on y retrouve Paul en prison, par exemple, à Rome, et il y a des Juifs des synagogues de Rome qui viennent lui rendre visite pour qu'il les enseigne sur cette nouvelle voie qu'il prêche dans le monde connu de l'époque. Et certains se convertiront, d'autres pas. Donc c'est courant parmi les Juifs. Et notre riche a donc beau porter de belles robes, de beaux bijoux, ou des costumes Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, ou une Rolex, il n'en est pas moins pauvre spirituellement. À titre personnel, je n'ai jamais vécu pareille situation, mais l'on m'a raconté qu'à une certaine époque, dans certaines églises, ceux qui dirigeaient l'église n'étaient pas les pasteurs. Ceux qui prenaient les décisions n'étaient pas les membres de l'église, mais bien ceux qui tenaient les cordons de la bourse, les riches, parce qu'ils payaient le loyer ou avaient acheté le lieu de culte, ou parce qu'ils participaient pour beaucoup dans le salaire du pasteur. On leur avait donc donné les clés de la maison de peur qu'ils ne retirent leur soutien financier. Ça a existé, et ça existe peut-être encore aujourd'hui. En opposition aux riches visiteurs dans notre texte, c'est vrai que Jacques aime décidément beaucoup les oppositions de contexte. En opposition aux riches visiteurs, nous avons un pauvre, nous dit Jacques, auquel personne ne prête attention et qu'on relègue aux places qui n'en sont même pas, comme assis au pied de l'un ou l'autre, comme l'on ferait d'un chien, parce que où se couche un chien, où s'assied un chien, au pied de son maître. Ou alors, on laisse debout quelque part. Et ce pauvre n'a qu'un tort, contrairement à ce riche, richement orné et habillé. Ce pauvre n'a qu'un tort, celui de porter sur lui les stigmates, l'évidence de sa condition, à savoir ses vêtements. Ses vêtements révèlent sa pauvreté. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, ça c'est d'un côté, et aussi un pauvre, qu'un pauvre entre aussi. Mais lui, est revêtu d'habits crasseux. Alors, le mot grec rouparos, traduit par crasseux, haillon, misérablement vêtu dans différentes traductions, peut aussi se traduire tout simplement par souillé. Un homme pauvre aux habits souillés. Alors, se pourrait-il que Jacques, qui est donc un maître du contraste, ait voulu à nouveau marquer celui entre la souillure morale du monde qui souille le chrétien qui ne s'en sépare pas et dont il a parlé il y a une semaine ou deux, et la souillure du pauvre qui, elle, n'en est pas une aux yeux de Dieu parce que leur nature diffère. La nature profonde de ces deux souillures dont parle Jacques en quelques versets sont totalement différentes. En effet, même si les deux mots utilisés par Jacques sont différents, le premier renvoyant donc à une souillure morale et le second une souillure causée par la saleté, il est bon, je crois, d'y réfléchir à cette différence. Après tout, la pauvreté, il faut le redire, elle ne souille personne. C'est le péché qui souille. Autrement dit, ce riche aux habits flamboyants et aux antipodes de ceux du pauvre est peut-être souillé au dernier point moralement, spirituellement. C'est même probable. En général, quand on est riche, on en abuse, on en profite. Alors que le pauvre, lui, tout en guenillé qu'il soit, est peut-être pur devant Dieu, de toute souillure morale, ne portant sur lui que les conséquences de la vie de misère qui est la sienne. Encore une fois, Dieu ne regarde pas aux apparences, mes amis, mais il regarde au cœur. Et en l'occurrence, comme je viens de le dire, le riche a bien plus de chances de se souiller spirituellement que le pauvre, puisqu'il risque, à cause de ses richesses, de se confier en celles-ci plutôt qu'en Dieu. Alors, le risque, je vais le répéter, mais si nous voulons vraiment prendre Jacques au sérieux, et tant qu'on y est, hein, toute la Bible au sérieux, toute la parole de Dieu, je vais rappeler ce principe. Si nous voulons que cette parole de Dieu devienne miroir pour nous, il faut que nous apprenions à regarder au bon endroit. En lisant ce texte, vous dites peut-être « Ouais, je ne suis pas un riche, moi. Je ne fais pas partie des riches. Vous voulez aller faire un tour au Bangladesh ?» Encore une fois, ne commettez pas l'erreur de vous placer dans le dos de Jacques, hein, à côté de celui qui enseigne les choses de Dieu. Mettez-vous du côté de ceux qui sont supposés les entendre et changer quelque chose à leur comportement. C'est valable pour moi aussi, bien entendu. Donc, est-ce un problème d'être riche ? Dans l'absolu, non. Parce que c'est bien si Dieu permet à certains d'être chrétiens, de le connaître et d'être riches en Dieu. Il y en a eu dans l'Évangile. Hein. Joseph d'Arimathée, qui vient récupérer le corps de Jésus après la crucifixion, est un riche puisqu'il possède son propre sépulcre, ce qui n'était quand même pas courant à l'époque. Et il est un disciple de Jésus. Mais une chose reste vraie pour les riches. Le riche ne pourra se détacher de ses richesses tout en les conservant qu'au travers d'une grande générosité. Si Dieu fait de vous des riches, c'est pour que vous vous montriez généreux envers ceux qui ne le sont pas. Rappelez-vous d'ailleurs de ce jeune homme riche. Non seulement il est riche, mais il est jeune. Ce texte se trouve en Matthieu 19. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux recevoir la vie éternelle, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, une grande fortune. Sa tristesse lui venait de ce qu'il cherchait en Jésus un maître, quelqu'un possédant les réponses aux questions qu'il se posait, dont la plus importante, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle? Que dois-je faire, maître, pour entrer dans le royaume de Dieu? Il cherchait un maître alors qu'il en avait déjà sa richesse. En lui demandant de tout donner aux pauvres, Jésus cherche à l'en libérer et à le mettre en cohérence avec sa propre demande. Tu cherches un maître, me voici. Mais pour me suivre, tu vas devoir abandonner l'autre. On ne peut pas servir deux maîtres. Et devant le refus du jeune homme, Jésus ne peut que constater la difficulté pour les riches d'entrer dans le royaume, car, dit-il, nul ne peut servir deux maîtres, et il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. Ce qui est très intéressant dans cette scène, c'est la réaction des disciples. Nous devons nous voir dans la réaction des disciples. Qu'est-ce qu'ils disent les disciples juste après? Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si les riches n'entrent pas dans le royaume, ben qui va y entrer, quoi? Peut-être une phrase étrange, enfin pour nous, semble-t-il. Mais pour les disciples, les riches, étant donné leur richesse, étaient bénis de Dieu pour eux. Ils devaient être bénis puisqu'ils avaient tout. Et ils doivent donc, puisqu'ils sont bénis, ils doivent donc évidemment, à leurs yeux, aux yeux des disciples, entrer dans le royaume. On ne comprendrait pas pourquoi Dieu les bénit autant ici et leur fermerait la porte du monde à venir. C'est en tout cas la logique des disciples, comme quoi on peut avoir une logique totalement tronquée et qui ne nous permette pas de comprendre ce que Dieu nous dit. Alors, c'est leur logique à eux, mais ça n'est certainement pas la logique de Dieu. Et la réponse de Jésus à la réflexion de ses disciples est très exemplative. Jésus les regarda, alors j'aimerais bien savoir de quel genre de regard il les a regardés, moi, personnellement, peut-être du genre... Encore une fois, si j'étais un disciple de Jésus, il m'aurait regardé souvent en faisant... Voilà ce qu'il dit. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Autrement dit, aucun homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu par lui-même, en forcer l'accès, en forcer la porte. C'est Dieu qui seul peut le faire entrer. Et dans le royaume, il faut quand même déduire ça de l'enseignement de Jésus et de Jacques, et dans le royaume, nous croiserons plus de pauvres qui ont été pauvres que de riches, parce que dans le royaume, nous serons tous riches, hein, de la présence de Dieu lui-même. Le monde entier trouvera d'ailleurs dans la pauvreté une raison supplémentaire de ne pas croire en Dieu. S'il y a autant de misère, c'est que Dieu n'existe pas. Le chrétien, lui, verra en la pauvreté de son prochain une occasion de servir et d'aimer un homme ou une femme qui revêt aux yeux de Dieu une grande valeur et une grande dignité, celle de porter, malgré les apparences, son image. Car, et je prends le livre des Proverbes, qui se moque des pauvres, outrage celui qui les a faits. Si notre Seigneur, tout le monde a lu, ça va? C'était tellement profond que faut le temps, hein. Si notre Seigneur devait nous rendre visite incognito le jour de Noël, il ne le ferait pas sous les atours somptueux d'un homme aisé. Mais certainement, comme lors de sa première venue en ce monde, sous les haillons de la pauvreté. Et il est fort probable que nous le laisserions dehors aussi. N'ayons donc aucune condescendance envers qui que ce soit, sachant que notre Dieu, je le répète, ne fait aucun favoritisme. Vous irez voir dans les notes, j'ai mis quelques versets et il y en a quelques-uns. Donc c'est bien pour vous dire que cette réalité, cette vérité, traverse toute l'Écriture. On se tromperait lourdement si nous faisions du favoritisme. Pas de favoritisme donc, ni concernant le statut social, ni concernant la couleur de peau. Je rappelle qu'il y a une seule race, c'est la race humaine. Il n'existe qu'un seul statut devant Dieu, sauvé ou non, donc racheté ou non, entrant dans le royaume ou non. Et il n'existe qu'une race, la race humaine. Tout ce qu'on y ajoute, tout ce qu'on ajoute à cette petite phrase que je viens de prononcer, vient du diable, vraiment. Et on est en plein dedans de nos jours, mais je n'ai pas le temps de développer ça. Veillons donc sur notre cœur et prenons donc garde à ce que Jacques nous dit au verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même, quand vous faites du favoritisme, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Ou, autre traduction, ce sera peut-être un petit peu plus clair, ne vous mettez-vous pas en contradiction avec vous-même et avec la foi que vous professez. Est-ce que c'est possible de faire du favoritisme social, économique ou autre et d'être chrétien? Nous nous conduisons en juges quand nous sombrons dans le favoritisme social, racial ou autre, quand nous privilégions l'un plutôt que l'autre, sans nous rendre compte que lorsque nous agissons comme ça, nous agissons en bien mauvais juge, dit Jacques, qui rend de mauvais jugements sur les êtres. Des juges qui, sans en prendre conscience, attirent le jugement de Dieu sur eux-mêmes. Ben, pour échapper à cela, c'est la bonne nouvelle, une seule solution, c'est plaider coupable. Nous avons tous déjà fait preuve de favoritisme. Si vous aviez oublié, je vous le rappelle. Si vous prenez 5 minutes, faudra même pas ça, disons 30 secondes de votre temps dans la semaine qui vient, pour vous poser la question, est-ce que j'ai déjà fait preuve de favoritisme? Vous allez voir que vous avez déjà fait preuve de favoritisme. Et donc, il faut demander pardon. Pour ça. On en revient à la dimension du miroir de la parole. Il faut s'y plonger tous les jours pour que ces prises de conscience soient quotidiennes. Et si nous agissons avec favoritisme, nous voilà à nouveau avec potentiellement un décalage entre ce que nous connaissons de la parole de Dieu, et disons, et ce que nous faisons, et revoilà notre cœur divisé. Alors je termine en vous laissant cette parole de Jean dans sa première lettre. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Obéissez à Dieu et vous aurez la paix dans votre cœur. C'est aussi bête que ça. Le reste, ça va vous paraître vraiment... Vous serez en paix parce que vous saurez que vous obéissez à votre Seigneur. En effet, même si notre cœur nous condamne, et ça arrivera, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît tout. Autrement dit, parfait, vous ne l'êtes pas, vous ne le serez jamais. Et à certains moments, vous vous rendrez malade par rapport à ça. Et Jean dit, de temps en temps, il va quand même falloir que vous appreniez à faire la différence entre la contrition et la culpabilité. Il y a une culpabilité morbide qui ne vient pas de Dieu. Du genre, tu te dis chrétien, tu as déjà vu comment tu fonctionnes, quoi. Elle va vous éloigner de Dieu, cette culpabilité-là, parce qu'elle ne vient pas de lui. Le Saint-Esprit poussera toujours, soufflera toujours dans le sens d'un retour vers Dieu. Toujours, quoi que vous ayez fait. Je termine en disant, en résumant, il n'y a qu'un seul Seigneur dans l'Église. Si on doit accueillir quelqu'un en se mettant à plat ventre et en faisant des courbettes, ce Seigneur-là, c'est qui ? C'est le Christ. Le seul Seigneur de l'Église et dans l'Église, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un seul qui puisse se voir proposer la meilleure place, la première place dans l'Église et dans nos vies. Et il faut lui offrir cette place pour la simple et bonne raison qu'il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.